Et c'est votre rendez-vous avec l'actu tout de suite, les titres de votre journal présentés par Charlie Rednich.
Bonjour Benny, bonjour à tous. On parle dans cette édition du référendum calédonien. Vous entendrez la chef de file loyaliste Sonia Backès qui a répondu à nos questions depuis Nouméa. On parlera aussi vacances avec l'Union polynésienne de la jeunesse et puis agriculture, pourquoi pas. Un premier motoculteur électrique est arrivé au Fénois.
Et on commence par une question. Après trois référendums, quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie, Charlie ?
Eh bien, un avenir dans la France, jusqu'à preuve du contraire. Vous le savez, dimanche, le camp du non à l'indépendance a reporté pas moins de 96% des voix au troisième et dernier référendum de l'accord de Nouméa. Après les courtes majorités obtenues en 2018 et 2020, ce score pourrait ressembler à un raz-de-marée, mais il s'explique surtout par l'appel à la non-participation du FLNKS. Un appel qui a visiblement été entendu. L'abstention est passée de moins de 15% l'année dernière à plus de 55%. Hier et la participation est tombée à 1% dans certaines communes à majorité kanak. Du côté du front indépendantiste, on parle donc d'un scrutin invalide voire illégitime. Du côté loyaliste, on rappelle que ce vote a été validé juridiquement et surtout qu'il n'est pas le premier. Écoutez Sonia Backès, une des chefs de file des anti-indépendantistes en Calédonie.
Il y a eu trois référendums. Au deuxième référendum, il y a eu 87% de participation. Et en fait, le non sur ce troisième référendum a fait 75 000 voix, alors qu'au plus haut de la participation, le oui avait fait 71 000 voix. Donc de toute façon, la majorité de la population veut rester française. Donc de toute façon, cette non-participation, c'était une manœuvre pour les indépendantistes, pour ne pas assumer le résultat et pour pouvoir le contester. On ne peut pas essayer d'abandonner un processus de 30 ans parce qu'on a eu 4 semaines de confinement. C'est pas sérieux. Aujourd'hui, on a voté trois fois non à l'indépendance, donc on restera dans la France. Ça n'empêche pas, évidemment, de continuer à parler de tout ce qu'il y a à évoquer en Calédonie.
Voilà, discuter, passage obligé, puisque l'accord de Nouméa, qui fixait jusqu'à présent le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie, va devenir caduc. Pour les indépendantistes qui ont dénoncé le passage en force de Paris sur la question de la date du référendum, pas question de revenir à la table des négociations avant les prochaines présidentielles et législatives. Compréhensible pour la présidente de la province sud, mais hormis l'avenir institutionnel, il y a d'autres sujets à discuter.
L'accord qui a été trouvé à Paris au mois de mai dernier, c'était qu'on se mette autour de la table pendant 18 mois pour proposer une consultation en fait, sur un nouveau statut en juin 2023. L'idée étant de trouver un statut qui fédère et non plus de se retrouver avec un 50-50 ou un 50-45, enfin, essayer de trouver quelque chose qui nous unisse. Donc c'est l'objectif maintenant. Alors c'est difficile de se mettre autour de la table le lendemain, donc je comprends ça. En attendant, il y a quand même 2-3 trucs un peu urgents qu'il va falloir gérer en Nouvelle-Calédonie. Et même si on ne traite pas la question du nouveau statut, il y a au moins des sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord.
Et parmi les sujets urgents, celui de la crise des finances publiques et des comptes sociaux, la question aussi des trois usines de nickel, poumon de l'économie du Caillou, dont deux sont en grave difficulté. Bref, beaucoup à discuter avant d'attaquer les questions qui fâchent, mode de gouvernement, corps électoral, statut pérenne, des discussions qui peuvent indirectement concerner la Polynésie, écoutez.
C'est un statut qui concerne la Nouvelle-Calédonie et nous, on a vocation à engager personne dans nos discussions. Mais je pense que ça peut avoir un intérêt, si la Polynésie le souhaite évidemment, qu'on puisse avoir des discussions pendant ces négociations pour voir s'il y a des choses dans ce qu'on va construire pour la Nouvelle-Calédonie qui sont susceptibles d'intéresser la Polynésie. Il n'est pas question pour les uns et pour les autres d'imposer quoi que ce soit à l'autre, mais je pense qu'on a quand même des problématiques qui sont communes. Et en fait, je pense qu'on peut avoir un intérêt à avoir des moments de discussion entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie pour trouver des choses en commun et même pour être plus fort. Entre guillemets, en tant que collectivité de la République.
Voilà Sonia Backès qui veut aussi rassurer les Polynésiens. Il y a parfois des tensions dans les discussions, mais il n'y aura pas d'exode massif depuis le Caillou jusqu'au Fénois. Le Fénois qui reste toutefois attentif au débat calédonien. Le Tavigny l'a montré ces derniers jours. Édouard Fritsch l'avait dit lui-même il y a quelques semaines. En attendant, on pense à nos voisins calédoniens qui sont en ce moment même confinés, non pas à cause du Covid, mais d'un cyclone. Il s'appelle Ruby et il balaie en ce moment le nord de la Grande Terre depuis ce matin.
Et l'UPJ réclame de stabiliser les moyens alloués aux centres de vacances.
Et oui, un budget réduit de plus de 50%, c'est le résultat de la crise Covid pour l'Union polynésienne de la jeunesse. Elle fédère des associations qui prennent en charge les jeunes du pays pendant ces périodes de vacances en leur proposant activités sportives, culturelles ou éducatives. Taoere Maono, directeur de l'UPJ, déplore un bilan financier difficile à porter. Écoutez.
sur les bourses de centres de vacances, on est quand même passé de 279 millions en 2020 à 167 millions. C'est un abattement de plus de 50%. Alors depuis lors, le ministère de la Famille et des Solidarités a pris des engagements au début d'année en veillant à ce que les lignes dédiées au RSPF et au RNS soient des lignes fongibles au niveau de la DSFE pour veiller à une prise en charge des publics autant que de besoin. Ce qui n'a pas forcément été le cas sur le RGS, qui est un régime qui obéit directement à la direction de la CPS et du ministère des Finances.
Le directeur de l'UPJ au micro de Marao Biré, qui rappelle au passage le rôle de prise en charge de la jeunesse assumé par les associations pendant la crise. Au long terme, l'UPJ demande la sanctuarisation des crédits alloués aux bourses des centres de vacances.
Agriculture maintenant, un premier motoculteur électrique en Polynésie.
Et travail du sol par vibration bineuse ou tractage de remorque, l'engin multifonction serait idéal pour les faapous de 1 ou 2 hectares et se recherche sur des panneaux solaires. C'est le pays qui l'expérimente depuis quelques semaines à Fakarava. Écoutez, Laurent Mahona, ingénieur à la direction de l'agriculture, il est au micro de Caroline Perdry.
On avait un site justement et un agriculteur sur Fakarava qui était équipé en panneaux photovoltaïques et qui pouvait recevoir cet appareil. On était vraiment sur travailler l'autonomie de l'exploitation dans des sites isolés et d'un autre côté, diminuer la pénibilité du travail pour les agriculteurs. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir développer à l'avenir hein, puisque tout faire avec une pelle et un râteau, c'est pas évident. On y passe beaucoup de temps. Tous les jeunes qui étaient un peu partis de cette vocation parce qu'ils voyaient leurs parents un peu souffrir au FAPO. Ce genre de matériel va permettre aux jeunes de revenir vers l'agriculture.
Voilà, 2 ans de tests sont au programme avant de décider si le pays va soutenir ou non le développement de ce genre d'outils, facturé 800 000 francs pièce dans tout le Fénois. Et le but est aussi de convaincre plus de jeunes de se lancer dans un métier qui deviendrait ainsi moins physiquement pénible.
Courir et se souvenir, deux objectifs pour un tour de l'île.
Oui, 100 km en 13 heures, ce qui a été effectué vendredi dernier par ce militaire du 17e régiment du génie parachutiste qui avait pour objectif d'honorer la mémoire des militaires tombés au combat, particulièrement les Tamaris volontaires. Écoutez-le se présenter.
Je m'appelle Maha Tarianou. Je suis du 17e RGP de Montauban, un régiment de parachutistes du génie. Je voulais tout particulièrement adresser un message de soutien à toutes les familles qui ont perdu un de leurs proches. C'est grâce à eux quand même que j'ai tenu du début jusqu'à la fin et j'ai pensé fort à eux.
Voilà, le très courageux Tayanou Maha qui était équipé d'un sac en tri lesté de 11 kilos pendant sa course, il était au micro de Marao Biré.
Spectacle maintenant avec le retour de Omorito Tauvaine sur les planches.
Oui, l'adaptation tahitienne de Ma femme s'appelle Maurice avait connu un beau succès en juillet dernier. Elle est de retour au Grand Théâtre de la Maison de la Culture cette fois, ce vendredi et ce samedi. De l'humour et de l'amour pour ce vaudeville endiablé. La troupe dirigée par l'auteur de la pièce originale, Rafi Chart, a su faire évoluer son jeu et son texte avec les rires du public comme maître étalon. Hier, le petit groupe était en répétition et visiblement les retrouvailles étaient très attendues. Parmi ces acteurs, on trouve Sonia Gibson, notre Gibi de Tiale FM. On trouve aussi Tamatoa Kaota et Vaitea Taora ou encore Rocky Gobré. On croise aussi Christopher Prona qui interprète un mari volage qui s'embarque dans des stratagèmes extravagants pour éviter d'être découvert. Le challenge pour cet artiste accompli, jouer en Réo Tahiti. Comme d'autres membres de la troupe, Christopher comprenait mais parlait peu le tahitien. La pièce a été l'occasion de s'y remettre. Écoutez-le.
Pour la plupart, on le comprenait, mais on le parlait pas. Je te promets, au début, on flippait, est-ce qu'on va y arriver ou pas, quoi. En 2 mois, moi, j'étais... Mais après, il y a une énergie aussi, on est une famille, on s'entraide entre nous. Si tu veux que je te sorte une phrase, il y a celle où est-ce que je m'adresse à ma maîtresse en lui disant « Eta o ite te huruna tau vahine haipo ipo, maite peu e ite ona e piti mate tito tau aurara, ta pare ona ya oe na moa e fata tauro ya u emuri e. »
Voilà, Omorito Tauvaine au Grand Théâtre ce week-end. Les tickets sont en vente sur ticketspacifique.pf, dans les magasins Carrefour et ici à Farouté, chez Radio 1. Le pass sanitaire est demandé à l'entrée. Ceux qui n'ont pas de preuve de vaccination peuvent facilement se procurer un QR code en passant un test en pharmacie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On passe à l'écoute de votre répondeur sur Radio 1 et Tiale FM.